présente Kérosène d'Adeline Dieudonné. Lue par l'autrice. À Cécile, ma mère. . 23h12. Une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été. Si on compte le cheval, mais qu'on exclut le cadavre, 14 personnes sont présentes à cette heure précise. Quelqu'un crie « Madame !» Une vieille enjambe le garde-fou et murmure pour elle-même « Désolé, chaton !» La femme qui a crié s'appelle Juliane. Alertée, les autres lèvent la tête. Alika, assise sur un banc juste à côté d'elle, Victoire, une jeune femme au crâne rasé, en train de faire le plein d'un petit SUV, short court, jambes longues, comme Batshoes. Plus loin sur le parking, Joseph, l'air d'un bon gars, grand, les épaules voûtées dans une chemise trempée de sueur. La seule qui n'a pas l'attention attirée vers la vieille, c'est Gigi, trop occupée à vomir sur les pneus de sa 911. À quelques mètres d'elle, Juliette s'allume une clope sous un panneau de sécurité routière. Elle tient la caisse de la station-service avec Sébastien. Juliette a remarqué la vieille quand elle est arrivée une vingtaine de minutes plus tôt. Elle était seule. Après avoir fureté entre les rayonnages, elle s'est approchée du comptoir. « Vous avez du gin ?»« Ah non, on vend pas d'alcool. »« Mais vous avez de la bière ?» Juliette a eu un léger haussement d'épaule. Avec un sourire résigné, la vieille s'est dirigée vers le frigo et en a sorti une canette de 33 centilitres, ce qui a soulagé Juliette. 33 centilitres, ce n'est pas 50 centilitres. 33 centilitres ? La personne a juste envie de se désaltérer. 50 centilitres, elle cherche autre chose. Juliette sait bien qu'avec 50 centilitres de bière, elle n'est plus en état de conduire. À tous les coups, elle repense aux paroles de Renaud. Mort les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août, papa picolait sans doute, deux ou trois verres, quelques gouttes. Puis la chanson s'embourbe dans sa tête pour le reste de la nuit comme un cerf pris dans un marécage, et ça lui charcute le moral. Mais la vieille a choisi la canette de 33 centilitres, ça va. Elle a payé puis est sortie. Tout ce qu'elle voulait, c'était du silence et de l'alcool. Elle a longé le restaurant fermé aux fenêtres hexagonales sur lesquelles étaient placardées des photos de boulettes sauce tomate et de frites. Délavées les photos, grises les boulettes, blanches les frites. À l'extrémité du bâtiment, quelques tables en plastique jaune délavées, elles aussi. Et des parasols repliés dans leur housse bleue comme des bougies éteintes sur un gâteau rassis. La vieille a salué Juliane et Alika, a choisi la table la moins sale et s'est assise. Elle a été surprise par le calme de l'endroit. Si on lui avait demandé de décrire une station-service de nuit, elle aurait évoqué le vacarme instinctivement. Vacarme des camions sur l'autoroute, vacarme d'une grosse Harley, vacarme de types qui crient d'un bout à l'autre du parking « Des Winston ou des Marlboro ? Quoi ? Des Winston ou des Marlboro ? Non, des Camels ! Ah, ok ! Light ! Quoi ? Light ! » Addition de tout un tas d'éléments qui, sans qu'elle ne les identifie individuellement, devait créer un brouhaha à vous perforer le lobe préfrontal. Or non. Le bruit de l'autoroute ressemblait à une forme de ressac régulier et plutôt doux. Et les gens qui y passaient murmuraient plus qu'ils ne parlaient, comme s'ils avaient peur de réveiller un voisinage imaginaire. Il y avait presque du recueillement dans leurs gestes et dans leurs pas. Peut-être que la route, la chaleur, invitait à un état méditatif qu'ils essayaient de préserver pendant leur ravitaillement. La vieille observait la procession de ces voyageurs nocturnes en pensant à leur combat, à leur peur, à cet enchevêtrement d'événements aléatoires qui dessinent une vie unique et irremplaçable. Elle aurait aimé leur demander à chacun de raconter. Cette jeune femme en survêt qui se dirige vers la cafétéria. Et ce type qui sort des jerrycans de sa dépanneuse. Lui, elle pouvait le deviner sans peine. C'était facile. Un homme est descendu d'une Citroën immatriculée en Suisse qui tirait un van dans lequel un cheval piaffait. Un type efflanqué avec un visage qui fascina la vieille. Des yeux bleus très clairs, des cils longs qui donnaient l'impression d'un léger trait d'eyeliner sous la paupière, une bouche pleine, des cheveux noirs un peu ondulés. Il y avait quelque chose de délabré chez cet homme, et de dangereux. Quand il s'est agenouillé pour vérifier la pression de ses pneus, la vieille a noté qu'il ne se servait que de son bras gauche, le droit se balançant inerte comme un pendu au bout de sa corde. Ça sentait l'essence, L'asphalte amolli par la canicule, mais aussi porté par une brise glissante des hauts plateaux ardennais, le parfum des bruyères, de la roche humide et des tourbières. À 23h13, la vieille a franchi le garde-fou. Elle s'appelle Monica. Chelly. Chelly avait besoin de se calmer. Elle inspira un grand coup et décida de faire une pause. Elle aimait les stations-service de nuit sans trop savoir pourquoi. Ça lui évoquait Dire Straits. Elle s'imaginait sur une route poussiéreuse du Montana au volant d'un pick-up sans âge, la voix rocailleuse et la guitare électrique de Mark Knopfler dans les oreilles, roulant libre et sans attache vers une destination où il serait question de chevaux, d'un ranch et d'une fête au milieu d'une prairie avec un grand feu sur lequel grilleraient des spéribs et des marshmallows. Et il y aurait ce gars qui jouerait de la guitare, un peu Mark Knopfler, un peu Robert Redford dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, un peu Clint Eastwood sur la route de Madison. Un homme solide, fort, solitaire. Un type à qui on ne la fait pas, qui aurait vécu une histoire douloureuse, une femme et un gamin morts dans un accident de la route ou quelque chose comme ça. Un cœur un peu triste qui arpenterait la plaine sur son cheval à Palouza, menant son troupeau de vaches vers l'abattoir. Elle l'imaginait endormie sous un ciel étoilé, la tête posée sur sa selle western, ses cheveux blonds caressés par le vent qui se lèverait sur le lac Missoula. La peau de son cou sentirait le cuir souple, l'herbe sèche et la résine de cèdre. Il la remarquerait, elle, Chelly. Sans cesser de jouer de la guitare, il poserait les yeux sur ses fesses moulées dans un Levi's low waist taille 26. Son ventre tendu sous une chemise à carreaux noués juste au-dessus du nombril, ses bras sculptés par des années de pole dance. Et son cœur sauvage de cow-boy solitaire recommencerait à battre un peu, pour elle, Chelly. Chelly rêvassait à tout ça en se garant sous le néon du panneau de sécurité routière. Toutes les deux heures, une pause s'impose, sur lequel un type souriait, une petite fille dans les bras. Un type qui avait l'air bêtement heureux avec sa gamine et sa calvitie naissante. En descendant de sa voiture, Chelly sentit une pointe d'agacement lui chatouiller la gorge. Ce type sur le panneau lui faisait penser à Nicolas, son mari. Et ces derniers temps, penser à Nicolas éveillait systématiquement une forme d'animosité chez Chelly. En traversant le parking, elle nota le reflet orangé des lampadaires sur son bras. Ça mettait en valeur le galbe de son deltoïde et de son biceps. Elle prit une photo et la posta sur Instagram. Come on girls, that's the way you should look like. Hashtag motivation, hashtag hard work, hashtag power, hashtag muscles, hashtag pole fitness. Chelly était prof de pole dance. Mais avant tout, Chelly était influenceuse. Chelly pole fitness, son compte Instagram comptait pas moins de 43 700 abonnés. Quelques heures plus tôt, en rentrant chez elle, Chelly s'était sentie fatiguée, démotivée, comme si toute sa vitalité était aspirée par un vortex dont elle ne connaissait que trop le point d'origine. Elle avait poussé la porte de son pavillon de banlieue avec la sensation d'entrer dans la gueule d'un monstre flasque à la laine de caveau. Elle s'était souvenue des détraqueurs dans Harry Potter, ces créatures fantomatiques qui se nourrissent du bonheur des gens, les vidant de toute pensée positive, de toute énergie vitale. Et elle avait retrouvé Nicolas. Ils étaient mariés depuis 11 ans. Nicolas était régisseur adjoint sur les plateaux de cinéma. Un métier difficile, rigoureux, aux horaires aléatoires, qui exige d'être débrouillard, résistant au stress et à la fatigue. 11 ans plus tôt, ce qui avait séduit Chelly chez Nicolas, c'était un peu tout ça. Avec son Leatherman et un peu de scotch, Nicolas pouvait transformer n'importe quelle maison délabrée en un endroit vivable. La première fois qu'elle l'avait vu, c'était à un barbecue chez des amis qui vivaient dans une casse automobile. Nicolas était en train de fabriquer des canapés avec quelques vieux pneus et des ceintures de sécurité récupérées dans les carcasses de voitures. En moins d'une heure, il avait transformé ce trou sordide en un joli petit salon d'extérieur avec quelques phares usagés en guise de lampions.